Alors, j'étais très embarrassée hein, pour donner un titre exact. Alors finalement, ben, j'avais donné comme titre « Le rapport des vieux à leur vieillesse hein. ». Et puis en préparant, j'ai précisé ceci, « Le rapport des vieux à leur vieillesse et le désir indestructible ». Et puis je préciserai peut-être chemin faisant, enfin oui, sûrement je vais le préciser, que c'est quand même ce désir qui, sous certaines conditions, peut nous ouvrir à autrui. Que ce soit des gens de l'ère privée, la famille comme on dit, hein, ou que ce soit l'étranger, dans son sens très large. Alors, ben la vieillesse, bon, on va en parler toute la journée, hein, c'est un temps de la vie, mais ce qui m'intéresse, bien sûr, hein, vous savez que je parle en me référant à Freud, la vieillesse, c'est quoi pour le sujet vivant? Je citerai Malraux parce que je crois que c'est très concis et très précis quand il dit que toute vieillesse est un aveu. Un aveu. Alors toute la question, c'est qui s'avoue et qui avoue quoi? Bon, nous constatons que nous ne vieillissons pas tous de la même manière. Hein. Alors, qui avoue quoi? Ben, celui qui s'avoue, c'est le sujet que nous sommes. Et le sujet défini, non pas par rapport à la philosophie, mais par rapport à la théorie psychanalytique. Et qui sommes-nous? Ben, je ne sais pas trop, hein. Nous ne sommes pas toujours ce que nous croyons, et nous ne savons pas toujours très bien qui nous sommes. Et dans notre différence, en dépit, à travers notre différence, il y a quand même quelque chose comme ça qui vient se répéter. Et donc on est bien renvoyé quand même à une question théorique au premier chef que je vais aborder juste pour qu'il n'y ait pas trop de malentendus entre nous. Quel est donc ce sujet de la psychanalyse qui s'avoue? En d'autres termes, le vieillard de la psychanalyse. Le sujet de la psychanalyse, bon, hein, grosso modo, permettez-moi de rappeler comme ça des choses un peu banales, hein. Eh bien, c'est d'abord un sujet parlant. Hein. On n'est pas des machines. On est un sujet parlant. C'est Pierre Legendre qui définissait l'humain d'une façon qui me paraît très simple et très parlante. Quand il dit l'humain, c'est de la vie qui parle. Et ce sujet parlant, ben bien sûr, il a un corps. Et il est pris dans un héritage génétique. Mais il a aussi un esprit. Alors, je suis dans mes petits souliers, là, en théologie, hein, l'âme, l'esprit. Enfin, si vous permettez, c'est des notions dont je me sers quelquefois quand je parle du sujet humain. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais dans notre esprit, ben écoutez, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes ce que nous sommes devenus à travers aussi tout ce qui nous a été dit, raconté, tout ce que nous avons entendu, qui nous a marqué. Je dirais tout ce qui nous a parlé. Parce qu'on peut entendre un tas de choses, mais tout ne nous parle pas de la même manière. Et ce qui se structure chez cet humain-là, à l'intérieur de son esprit ou de son âme, en fait, Freud parlait du psychisme, mais il disait l'âme, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que ce qui a été traduit en français par appareil psychique, c'était Seelenapparat. Là, c'est quand même tout à fait intéressant à rappeler en passant. Et bien là-dedans, il y a effectivement quelque chose qui est structuré, le sujet de l'inconscient, héritier de tout un ensemble d'éléments symboliques qui ont été véhiculés à travers ceux qui l'ont institué. Alors, élever qu'un enfant et s'instituer un enfant, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, hein. Mais tous ceux qui l'ont élevé, et nous sommes pris dans ce double héritage, à la fois génétique et symbolique, qui fait qu'il y a des choses étonnantes concernant, par exemple, ce corps qui parle quelquefois à travers des symptômes, et cette outrecuidance freudienne qui n'a pas seulement mis en œuvre ce que lui avaient enseigné ses maîtres, que le symptôme dans la maladie a des causes, mais qui comme ça s'est permis de dire que la maladie avait aussi un sens. Un sens pour le sujet, ce qui fait effectivement que le savoir du médecin est souvent mis en échec par ce sens que la maladie a pour le sujet à son insu. Bon, alors ce sujet parlant, puisque je viens de parler de l'insu moi-même, je voudrais souligner, mais je pense que vous l'aurez entendu, c'est avant tout un sujet divisé. Il y a la surface sociale, hein, notre statut social, nos fonctions, le rôle que nous jouons, et puis il y a le sujet de l'inconscient, parce que le statut égal et fonction égale, on ne joue pas son rôle de la même manière. Et si le rôle, bien sûr, c'est comme le personnage de théâtre qui joue et qui s'avance masqué, derrière le masque, il y a un sujet. Et c'est ce sujet de l'inconscient structuré, je pense que c'est celui-là qui s'avoue, qui se construit en début de vie et qui s'avoue en fin de vie. Alors qu'est-ce que je raconte quand je dis ça ? Eh bien, je raconte quelque chose d'assez précis, hein, du point de vue théorique, à savoir. Longtemps, ça a été une observation courante. Tout le monde a dit, ben, c'est marrant, les vieux, ils retombent vraiment en enfance. Et on disait ça parce qu'effectivement, comment nommer autrement ce qui se défait et ses conduites chez un sujet qu'on connaissait autrement pendant toute sa vie et qui tout d'un coup, là, elle n'est plus ce qu'elle était. Il n'est plus ce qu'il était, lui qui était si économe, voilà qu'il dépensait sous avec une danseuse. Enfin bon, la danseuse, entre guillemets, hein, ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément quelqu'un qui danse, mais c'est sûrement quelqu'un qui le fait marcher. Enfin bon. Alors au fond, ce qui moi m'est apparu quand j'ai commencé, enfin ça je l'ai déjà raconté, mais je le répète ici parce que j'ai des gens avec qui j'ai travaillé, d'autres pas, enfin qui sont présents. En fait, ce n'est pas que nous retombions en enfance, mais en référence à la théorie de Freud et ce que je viens de dire du sujet, du point de vue théorique, on peut très bien argumenter que le fin de vie, les fins de vie, c'est le retour du refoulé, le retour de ce qui s'est inscrit à l'orée des jours. Et ce qui s'inscrit dans cet appareil psychique, cette âme, alors âme-esprit, je soulignerai là juste un petit détail en me rappelant le poème de La Fontaine, comment l'esprit vient aux filles, que vous connaissez sûrement, avec son côté coquin. Mais effectivement, l'esprit vient aux filles dans la rencontre entre certains événements et quelque chose du désir qui fonctionne en elle. Alors donc, le retour du refoulé, le retour de ce qui s'est inscrit, nous le constatons assez couramment parce que ce retour du refoulé se manifeste à travers ces conduites étranges, inconnues et inhabituelles. Ces conduites étranges qui, effectivement, nous amène à rencontrer chez les vieux un autre. On reconnaît certains traits, mais qu'on ne connaît pas vraiment cet enfant qu'il était, qui fait retour et qui s'avoue à lui-même et à autrui. Et celui qui s'avoue ne plaît pas toujours, ni à lui-même, ni à autrui. Enfin, nous savons bien qu'il y a des vieux qui ne se supportent pas vieux. Que la rencontre avec cet autre, là, qui fait retour, est quelque chose d'insupportable. Bon, alors je soulignerai encore quelque chose, c'est-à-dire que la vieillesse aussi, bien sûr, c'est le temps des pertes. Sur le plan biologique, certes, puisque les fonctions s'amenuisent. Enfin oui, les fonctions se délabrent. Hein? Alors on lutte, hein? Tant qu'on peut encore batifoler, je dis toujours, hein? Comme je le fais d'ailleurs moi-même, ça va, on s'en aperçoit pas trop, mais enfin, il y a quand même quelque chose là qui s'annonce, hein? Et puis ces fonctions qui s'amenuisent, le rapport à ces pertes n'est pas supporté de la même manière par tout le monde, si le sujet n'a rien en échange de ce qu'il perd. Et souvent chez les vieux, ce sont des pertes sèches. Et c'est vrai que ce qu'ils peuvent avoir en échange, ce que nous pouvons avoir en échange, et bien ça dépend aussi de ce qui nous habite. Et puis, sur le plan du sujet social, il y a des pertes, hein, il y a des statuts qu'on perd, il y a des fonctions qu'on ne peut plus assumer, et on est contraint à des changements de rôle à travers toutes ces pertes. Et c'est vrai que ce n'est pas évident d'y arriver, car comment assumer ces pertes? Eh bien, je pense, oui, c'est une hypothèse, enfin, qu'il me paraît maintenant, comme ça, au bout quand même d'un certain nombre d'années de travail dans ce domaine, c'est une hypothèse que je crois qu'on peut avancer. Eh bien, ces pertes qui sont autant de deuils. Le deuil, c'est la mort de l'objet, hein. c'est pas seulement y renoncer, hein, comme diraient les moralistes, mais vraiment s'en détacher, s'en défaire, pour récupérer du désir qu'on peut investir dans autre chose. Mais dans quoi est-ce qu'on va l'investir? Et ces pertes, alors effectivement, je crois que chacun les accomplit à l'instar des pertes de la petite enfance. L'enfant aussi a perdu. Bon, je ne vais pas vous réciter toute la psychanalyse, ça on connaît, hein, les premières pertes, le premier objet, le placenta, le sein, ou que sais-je, enfin, tous ces sacrifices accomplis pour pouvoir prendre place et rang dans l'espèce à laquelle nous appartenons et à l'étage supérieur, enfin au-dessus, à un autre niveau, à la culture à laquelle nous appartenons. Seulement l'enfant qui perd gagne. Et les vieux, que gagnent-ils? Alors évidemment, du côté de Freud, cette question est quand même extrêmement importante, car le deuil qui permet de récupérer du désir pour l'investir dans d'autres objets. Comment ça se passe pour les uns et pour les autres? Et sur quoi ça bute en dernier ressort? Donc l'interrogation de la psychanalyse, c'est une interrogation du désir. Et comme vous savez, bien sûr, la psychanalyse, ben, c'est une théorie. C'est une théorie du désir. Alors, une théorie du désir et une théorie du lien objectal. Je précise, l'objet, hein, d'une façon générale, dans la théorie psychanalytique, c'est tout ce qui ouvre le sujet à autre chose que lui-même. À autre chose que lui-même. Et chez les humains, ce lien objectal qui se fait jour au niveau de l'inconscient, lorsque les premières perceptions, les premiers affects, les premières émotions, c'est au niveau de l'inconscient que ça se passe et c'est là où ça s'inscrit. Ça fait effet alors au niveau du sujet social. Mais ça, c'est comme ça que l'humain découvre l'altérité. Et cet objet-là, est-ce que c'est un ami, un ennemi? Plus tard, les philosophes, et Lévinas en particulier, ils résument ça parfaitement bien. Ils disent, l'autre est toujours une énigme. Une énigme. Alors, je voudrais rappeler un texte de Freud. Quand il parle comme ça de cette genèse du lien objectal, un très vieux texte de 1895 qui a été perdu pendant des années, retrouvé, retraduit, un peu toiletté par la fille de Freud, qui s'appelle L'esquisse pour une psychologie scientifique et qui n'a paru en France qu'en 1950. Quand même pas oublier que ce texte a été perdu pendant plus d'un demi-siècle, ce qui est quand même assez frappant. Et là, il dit quelque chose de tout à fait... je trouve de tout à fait important, en tout cas pour les questions qui me travaillent et que je travaille donc. Hein. Quand il dit, faisons l'hypothèse, qu'est-ce qui se passe au début de la vie, comme ça, faisons l'hypothèse que ce petit humain, qu'est-ce qu'il perçoit autour de lui? Et il dit des masses mouvantes, des masses mouvantes. Et dans ces masses mouvantes, petit à petit, il y a un truc, un machin, une chose qui se détache. En allemand, ça va, il y a un mot. En français, il n'y a que le mot chose, ou truc, ou machin. En allemand, il y a Ding. Ein Ding. Alors je pourrais raconter un truc sur le Ding, enfin je ne vais pas vous le raconter, hein, je vais vous en faire grâce, il faut quand même que j'avance dans ce que j'essaye de proposer hein, aujourd'hui. Alors ce Ding, eh ben, peu à peu il devient eine Sache, comme on dit en allemand. C'est-à-dire il y a la masse mouvante, la chose, et petit à petit l'objet. Cet objet qui va, qui vient, qui est présent, et quand il est présent, il y a quelque chose de bon qui se passe. C'est quelque chose comme ça qui... ben, c'est de la bonne heure. Et quand il s'en va, hein, eh ben, on est un peu perdu. Et on l'appelle, alors les gens disent, les parents, mais qu'est-ce qu'il a crié comme ça? Il faut le laisser, hein, ça lui fait les poumons, hein. Mais il vient de manger, il a besoin de rien. Eh bien non, il a besoin de rien. Et là, c'est ça, cette chose spécifiquement humaine qui se met en place. Si le besoin peut être satisfait, il y a autre chose qui n'est jamais satisfait chez les humains, c'est la demande du retour de la bonne heure. Car quand le bon objet n'est pas là, Melanie Klein a théorisé ça après, hein, en appelant ça, disons, parlant du clivage de l'objet, bon objet, bon quand il est là, mauvais quand il n'est pas là, mais l'absence de l'objet, c'est la malheur. C'est la malheur. Alors qu'est-ce qui fait le monde? Ben, il fait comme on fait de plus en plus en fin de vie, quand l'objet est absent, et quand il y en a même qui reviendront jamais, on y pense, on l'évoque, dans les souvenirs. L'enfant peut halluciner, le bébé. Mais écoutez, les vieux aussi. Et finalement, c'est une manière de faire revenir ce qui est absent. De manière qu'on ne soit pas perdu. Car quand on est perdu, c'est pire que tout. Et c'est là où Freud, dans ce texte, utilise un mot difficile à traduire en français, on l'a traduit par détresse. Mais je vais vous le dire en allemand parce qu'il est infiniment parlant. Die Hilflosigkeit. L'impossibilité de se venir en aide soi-même. La détresse quand même, mais avec cette espèce de connotation en allemand. Mais oui, on est perdu. Il n'y a plus rien à faire. Alors évidemment, tout ça, bon, c'est pas dans nos souvenirs conscients, hein, évidemment, mais j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est là où quelque chose de très important se joue en fin de vie et fait retour en fin de vie de façon ineffable, sauf que ça se dit à travers des plaintes de solitude, d'isolement. Il ne se passe plus jamais rien. C'est plus jamais drôle. Allez voir les autres. Là, tant qu'on est chez soi et qu'on peut les recevoir chez soi, il y a quelque chose qui se répète, hein. Quelque chose qui d'un passé qui fut. C'est vrai très souvent que dans les maisons où effectivement on ne peut pas faire autrement, hein, dans les maisons où les vieux se retrouvent, là dans leur coin, allez parmi les autres. Ouf, ils sont tous bêtes et méchants. Enfin, c'est ce que disait ma mère d'ailleurs, très précisément. Mais elle n'est pas la seule, parce que je l'ai entendue chez beaucoup d'autres.